Vous écoutez le podcast On parle de bien-être numérique. Mon nom est Laurie Michel, je suis la fondatrice de Vivala, une entreprise spécialisée dans le bien-être numérique depuis 2019. Notre mission, vous aider à instaurer de saines habitudes autour de la technologie. Dans ce podcast, on discute de la place du numérique dans nos vies, on parle de santé mentale, de performance saine, des impacts sociaux de la technologie, de la déconnexion et bien d'autres sujets dont on entend moins parler. Notre but, s'éduquer, s'outiller, débattre dans la joie et la bonne humeur parce que comme on dit souvent chez Vivala, viva la vida, viva la offline. Merci à Isarta, notre partenaire de visibilité.
Je vous parle souvent de saines habitudes numériques et bien évidemment, ces saines habitudes numériques, elles doivent être accompagnées de saines habitudes de vie, comme par exemple faire de l'activité physique ou encore avoir une saine alimentation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine Paiement. Elle est nutritionniste et la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Endorphine Nutrition Sportive. Bonjour Karine, comment vas-tu?
Bonjour Laurie, je vais très bien et toi?
Ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir sur le podcast de Vivala aujourd'hui pour parler de quelque chose qui nous concerne tous, n'est-ce pas? L'alimentation, le sport. Mais c'est un petit rituel sur le podcast maintenant depuis un an. Je serais curieuse de savoir un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que c'est qui t'a amené à partir dans le monde de la nutrition?
Oui, ben, je vais essayer de faire ce cours. En fait, moi, la nutrition, c'est entré dans ma vie sous forme plutôt de régime. Je dirais, quand j'étais jeune, ma mère faisait les fameux groupes, là, qu'à chaque semaine, on va vous peser, puis on va vous dire si vous avez bien fait ou mal fait, puis il y a une certaine forme de culpabilité, hein, on va se dire avec tout ça. Donc, moi, quand j'étais jeune, ma relation avec la nourriture, c'était beaucoup plus les aliments. Là, je vais mettre des guillemets parce qu'on est sur un balado, donc on va pas nécessairement me voir, mais je mets des guillemets aux aliments engraissants, entre guillemets, et non engraissants, entre guillemets. Donc, c'est beaucoup ça, le vocabulaire que j'avais quand j'ai grandi, là, finalement. Puis, ça m'a amené à m'intéresser à la nutrition pour comprendre, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire pour contrôler mon poids? Qu'est-ce que je peux faire pour contrôler mon apparence? Parce que j'avais cette insatisfaction corporelle-là quand j'étais jeune. Puis, ben, rapidement, quand j'ai commencé à suivre la formation, le baccalauréat en nutrition, qui est une durée quand même de 3 ans et demi, maintenant 4 ans, ils ont allongé un petit peu le programme. Ben, j'ai réalisé qu'on n'avait pas tant de contrôle que ça sur notre corps. Puis au début, j'étais un peu en déni. Je me disais, ben voyons, tu sais, je peux pas croire que je fais des études universitaires pour me faire dire qu'il y a rien à faire. Et c'est pendant mon baccalauréat que j'ai réalisé le pouvoir de la nutrition était justement beaucoup plus grand que d'essayer de contrôler notre apparence parce que le poids, on n'a pas tant de contrôle que ça. On pourra en reparler ou peut-être on fera un autre épisode de balado sur le sujet parce qu'on pourra en parler longuement. Mais ça m'a fait réaliser que l'alimentation puis l'activité physique, ça avait des rôles beaucoup plus qui pouvaient être beaucoup plus positifs dans nos vies que d'essayer de contrôler notre corps. Puis au début, ayant une relation un peu, je dirais, troublée avec la nourriture puis avec mon corps, ben je me disais, je vais pas nécessairement accompagner les gens en trouble de comportement alimentaire. Tu sais, j'ai suivi des cours puis des formations, mais j'étais comme, je crois que moi-même, je suis un petit peu fragile, alors je veux pas nécessairement aider cette population-là parce que je pense pas que je suis la meilleure personne pour intervenir. Mais rapidement, je me suis rendu compte que même si je voulais aider que les gens qui font des sports, disons, plus d'endurance, parce que j'ai fait des marathons moi aussi à une époque quand j'étais pas au doctorat puis que j'avais un petit peu plus de temps pour mettre du volume d'entraînement dans mon horaire, là, c'est autre chose. Mais je me suis dit, je vais juste aider les gens à optimiser leur alimentation au contexte sportif. Mais rapidement, j'ai réalisé que ben, j'avais pas le choix de me former en troubles alimentaires encore plus pour être en mesure d'intervenir. Puis, je vous rassure, là, j'ai entamé des démarches moi-même auprès de professionnels, puis j'ai rétabli la relation que j'avais avec mon corps. Mais au début, j'étais comme pas certaine si je pouvais aider cette clientèle-là. Puis finalement, c'est tellement omniprésent, l'insatisfaction corporelle, la pression d'avoir un certain corps. Donc, on n'a pas le choix de se former quand on est un professionnel de la santé puis qu'on veut aider les gens à, oui, manger peut-être mieux, puis oui, bouger plus, mais sans que ce soit au détriment de leur santé mentale puis de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes puis de les amener à se culpabiliser. C'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter pour que les gens soient bien dans leur corps, dans leur habitude de vie. Puis c'est de là que, de fil en aiguille, je me suis intéressée à l'approche intuitive qui, finalement, est devenue un livre que j'ai écrit avec mon amie et collègue Geneviève Nadeau, « Manger et bouger intuitivement ». Et c'est ça qui m'a menée à vouloir faire un doctorat pour étudier sur cette thématique-là, l'approche intuitive, comment qu'on peut aider les gens à être plus à l'écoute de leur corps, parce que ben notre corps, c'est une très, très belle machine, très complexe, mais qui est très précise si on lui permet de nous envoyer les signaux qu'il a besoin là, pour qu'on réponde à ses besoins. Donc, je crois que c'est une approche qui gagne en popularité dans les dernières années, puis qui gagne à être encore plus connue. Donc, je suis bien heureuse de pouvoir en parler aujourd'hui avec toi.
Oui, oh, que ça me, j'ai plein de questions qui me viennent, j'ai plein de réflexions qui me viennent à travers tout ce que tu viens de nous partager. Dans un premier temps, c'est vraiment tout le rapport au contrôle de l'apparence, en fait, qui est beaucoup poussé aujourd'hui par les plateformes comme les réseaux sociaux, hein. Il y a une comparaison qui est naturelle chez les gens, mais de tout le monde, hein, c'est naturel, c'est humain de se comparer, mais c'est amplifié avec les plateformes comme les réseaux sociaux. Et on a comme, on a envie parfois de contrôler un petit peu mieux son apparence, comme tu disais, hein, de reprendre un petit peu le pouvoir peut-être sur son corps. Mais donc, il est limité, ce pouvoir-là qu'on a. C'est ce que tu mentionnais. Puis, je trouve ça vraiment très intéressant, en effet, de, en fait, de le dire. Juste de le dire. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment bombardé d'images de perfection, d'images de certains. On va dire, corps, de certains régimes aussi. De diète, etc., de jeûne, de plein de modes, en fait, qui se développent autour de notre façon de nous alimenter. Puis on va certainement avoir l'occasion d'en reparler toutes les deux là à travers cet épisode, mais qui peut être malsain par rapport à, ben, à la façon dont on va voir son corps, puis comment on va se sentir. Parce que c'est ça impacte le corps, le physique, mais ça impacte aussi tout ce qui est mental. J'ai une petite question par rapport au nom de ton organisation, donc ce que je comprends, tu touches à la fois à l'alimentation, mais aussi à la partie activité physique. D'où vient donc ce mot endorphine nutrition sportive?
Oui,
En entier, c'est ça?
oui, exactement. En fait, endorphine nutrition sportive, ça venait du fait que même avant que je m'intéresse davantage aux troubles de comportement alimentaire, je voulais quand même que mon entreprise, dès le début, ce soit axée sur le plaisir. Donc oui, on veut peut-être se donner des défis sportifs, courir un premier 10 km, un marathon, un Ironman, pourquoi pas. Mais le terme endorphine, ça représente les hormones qu'on sécrète qui font qu'on se sent bien après une activité physique. Tu sais, le petit eye runner, le petit comme le fait de se sentir zen, relax après avoir couru. Bien, pour moi, ça représentait comment je voulais que les gens se sentent. Je voulais qu'avec les recommandations nutritionnelles, les stratégies nutritionnelles qu'on met en place pour préparer leur événement sportif, ben qu'il n'y ait pas de pression de performance, de le fameux no pain no gain entre guillemets. Je voulais qu'il y ait quand même cette notion de bien-être qui transparaisse. Puis maintenant, ce qui est important de savoir aussi, c'est que endorphine, nutrition sportive, c'est joint à Nutri sans chichi. Donc, ça va aussi dans ma vision, justement, le nom Nutri sans chichi, c'était une entreprise qui existait déjà, donc je ne l'ai pas choisi, mais ça vient quand même représenter l'aspect de suivre son intuition. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tracas. Donc, c'est les deux entreprises qui sont maintenant une seule entreprise. Finalement, c'est Endorphine et Nutri sans chichi, où il y a un volet plus sportif, mais il y a aussi un volet relation avec le corps, le poids, l'apparence corporelle. Donc, oui, trouble de comportement alimentaire, mais monsieur, madame, tout le monde, on s'entend comme dans une société de pression, de performance. Donc, des fois, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour bénéficier d'améliorer la relation qu'on entretient, soit avec notre corps, l'activité physique ou l'alimentation. Donc, ça couvre un peu les deux principaux volets de mon entreprise.
Intéressant, intéressant. Le rapport de l'alimentation, en fait, le rapport que les gens ont avec l'alimentation, toi, sur le terrain, dans tes interventions avec les clients, est-ce que tu trouves qu'il est, comment il est, en fait? Est-ce que, on comprend pourquoi on mange? Est-ce que, l'abondance d'alimentation qu'on peut avoir au supermarché, tout ça, ça vient perturber un petit peu notre façon de nous alimenter, notre façon aussi de, on va dire, de manger en termes de quantité, en termes de qualité, tout ça.
Mais en fait, en toute transparence, je vais le dire d'entrée de jeu, qu'actuellement, étant donné que je fais mon doctorat, ça fait quelques mois que je ne vois plus de clients en individuel, en un à un. Par contre, j'ai une équipe de nutritionnistes, puis on va quand même discuter des gens qui les accompagnent, puis je vais les aider à préparer leurs interventions. Donc, c'est sûr que je reste quand même près de le volet clinique. Mais moi, ce qui m'intéresse plus actuellement dans le cadre de mon doctorat, c'est beaucoup la littérature scientifique, donc les données plus, on va dire, populationnelles. Et je peux effectivement te dire que oui, l'environnement, c'est un facteur qui est très, très, très important dans les comportements qu'on va adopter comme être humain. Donc, autant au niveau de l'alimentation, mais aussi de l'activité physique, le sommeil, le stress, etc. Donc, oui, définitivement, un élément que je trouve qui est intéressant à nommer, c'est T'sais, par le passé, on n'avait pas autant d'accès à une grande variété d'aliments qui sont denses en énergie, qui sont un petit peu plus riches en gras, en sucre et en sel. Ça n'en fait pas des aliments qui sont diaboliques, entre guillemets, qui devraient jamais faire partie de notre alimentation, parce que c'est tout à fait normal d'avoir des aliments qui sont plus riches en gras, en sucre et en sel, parce que c'est des aliments qui sont peut-être plus goûteux, puis qui vont répondre à un besoin peut-être plus sensoriel, d'apaisement peut-être d'émotions. Ça fait partie des rôles de notre alimentation. T'sais, les aliments vont pas juste nous fournir des calories, des protéines, des glucides, etc. Vont aussi avoir un aspect, on va dire, plus social de l'alimentation. Mais n'en demeure pas moins qu'avant, fallait aller cuisiner les gâteaux. Maintenant, les gâteaux sont prêts à être consommés très, très, très rapidement, sont beaucoup plus accessibles qu'auparavant. Puis, si je fais le parallèle avec l'activité physique, c'est un peu la même chose. Avant, les travails, les emplois, je ne sais pas trop comment le dire, mais bref, quand on allait travailler, souvent le travail, il était beaucoup plus physique. Donc, si je travaillais, par exemple, 40 heures par semaine, puis que mon travail, il était moins sédentaire, ben j'avais de l'activité physique dans mon quotidien, puis je me posais pas la question, c'était mon gagne-pain, donc j'avais pas le choix d'y aller. Alors que maintenant, la majorité des emplois sont de plus en plus sédentaires. Puis là, faut comme qu'on se force, entre guillemets, à trouver du temps dans nos journées en dehors du travail pour arriver à bouger. Puis c'est là que des fois, ça peut être plus difficile pour les gens parce que ben, on a tous 24 heures dans une journée puis 7 jours dans une semaine. Puis des fois, on est fatigué justement. On a une fatigue peut-être un petit peu plus mentale d'un travail qui est plus sédentaire. Mais cette fatigue-là, elle est valide aussi. C'est juste que des fois, quand on va bouger, ça va nous aider à se sentir mieux après parce que c'était une fatigue uniquement mentale. Mais n'en demeure pas moins que la perception est que je me sens fatiguée. C'est plus difficile pour moi de me motiver à bouger si j'ai cette fatigue mentale-là versus si je suis... T'sais, si j'ai plein d'énergie puis que j'ai envie de bouger, ça va être plus naturel. Donc oui, des fois, on a tendance à penser que la faute est sur l'individu, que c'est à nous de se botter les fesses, si je peux le dire comme ça, puis que c'est nous qui manquons de motivation si on fait pas tous les changements. Mais dans la réalité, l'environnement a un très, très gros impact sur nous aussi. Et c'est important d'en prendre conscience parce que, ben, la culpabilité, c'est pas un très, très bon vecteur de changement. T'sais, du moins, c'est pas une motivation qui est positive, disons, qui généralement va perdurer à long terme. Donc, l'idée, si on veut apporter des changements dans nos habitudes de vie, c'est de trouver des sources de motivation qui sont positives. Et c'est là qu'il va y avoir un petit peu de magie qui peut opérer, puis qu'on va pouvoir adopter des changements qui sont durables. La culpabilité, de façon générale, à part de se taper sur la tête, ça sert pas à grand-chose.
Je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Je trouve ça vraiment super intéressant les deux aspects que tu amènes dans le fait du changement en fait des modes de travail. Moi, je l'observe aussi pour tout ce qui a trait à la sédentarité qui est liée à l'hyperconnectivité. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent derrière les ordinateurs. On est assis beaucoup aussi. Donc c'est ça la fatigue mentale vis-à-vis des écrans qui fait qu'on a la difficulté à aller bouger après. Donc c'est certain que le mode de travail a évolué. Moi, j'ai acheté un bureau debout assis. Ça a complètement transformé vraiment mes journées, même si je cours pas quand quand je suis debout. Mais quand même, c'est vraiment complètement un game changer, je trouve, pour mes journées. Mais je voulais revenir sur la première chose que tu mentionnais, des gâteaux tout faits. Ça m'a fait réagir parce que j'ai l'impression parfois, en discutant avec les gens autour de moi, que la cuisine est devenue presque une corvée aujourd'hui. Moi, personnellement, j'adore cuisiner. C'est un de mes loisirs. Je pense que c'est peut-être culturel, hein. En France, on aime ça, passer du temps en cuisine. Mais est-ce que tu l'observes toi aussi? Est-ce que c'est des choses qui reviennent, que on a de plus en plus de difficultés en fait à cuisiner? Est-ce que tout ce qui est plat préparé, c'est problématique d'intégrer ça beaucoup dans sa journée?
Ben, en fait, je dirais pas que c'est problématique. Des fois, ça peut être des bons dépanneurs d'avoir un plat préparé, tu sais, d'avoir des légumes précoupés, d'aller trouver des certains raccourcis en cuisine. Ça peut être tout à fait aidant. Donc, faudrait pas se culpabiliser si ça nous arrive de l'utiliser. C'est des outils qui peuvent nous aider. Mais effectivement, plus on cuisine à partir d'ingrédients de base, ben plus il y a de chances que l'aliment, le repas du moins qu'on prépare ou la collation qu'on prépare, ben on va avoir un petit plus de contrôle sur la quantité de sucre, de gras et de sel qu'on va avoir mis à l'intérieur. Puis il y a pas juste la valeur nutritive de l'aliment. Quand je le prépare, cet aliment-là, ben il y a des études qui le démontrent que si je le cuisine, je vais avoir tendance à davantage l'apprécier. Puis tu sais, le fait de cuisiner en soi, c'est de l'activité physique parce que souvent, on cuisine debout, là. On peut s'asseoir pour éplucher nos patates, mais généralement, on va quand même être debout au comptoir. Puis, veux pas, c'est quand même une source d'activité physique. Puis, pendant ce temps-là, on développe aussi nos aptitudes à cuisiner puis à adapter les recettes. T'sais, plus on cuisine, c'est comme dans n'importe quoi. Plus on fait, meilleur on devient. Puis, plus on devient efficace. Donc, des fois, on a tendance à se dire qu'on n'a pas le temps de cuisiner, puis d'essayer de trouver des raccourcis comme de la restauration ou des plats, t'sais, congelés, peu importe. Mais plus j'utilise ces stratégies-là, moins je cuisine, moins je deviens efficace, moins je suis capable d'adapter les recettes puis d'improviser, et plus ma seule porte de sortie, ça devient ça. Donc, c'est sûr qu'on a tous des modes de vie qui sont différents. On a des moments dans la vie où on est plus occupé, où on vit certaines situations. Donc, ça peut être tout à fait normal qu'on ait besoin de ces portes de sortie-là sans avoir à se taper sur la tête, mais de prendre conscience que cuisiner, c'est comme l'activité physique. On peut le voir comme une corvée, mais plus on le voit comme une corvée, moins on va avoir envie de le faire. Alors que si on essaie de le voir de façon positive, sans se mettre la pression de cuisiner 7 jours semaine, les 3 repas par jour, des choses vraiment faites maison, tu sais, je fais pas mon propre pain, là. C'est excellent, du pain fait maison, je vous le cacherai pas. Comme beaucoup de gens dans la pandémie, j'ai fait mes propres bagels et mon propre pain. Mais bon, le doctorat est reparti, la pandémie est quand même derrière nous. Alors maintenant, j'achète mon pain déjà fait, déjà tranché, puis ça me sauve du temps. Mais plus je cuisine des choses maison, plus je l'apprécie, plus je vais probablement prendre le temps de le savourer, puis plus je vais être efficace dans le temps que je vais passer en cuisine ensuite. Donc, ultimement, oui, la valeur nutritive du plat cuisiné va être plus intéressante, mais c'est tout le volet autour qui est important à considérer et qui fait en sorte que c'est pertinent d'essayer de cuisiner davantage, même si des fois, ça peut nous demander un petit peu de motivation, que ce soit de se mettre, pourquoi pas un podcast pendant qu'on cuisine pour passer le temps, et de trouver des stratégies qui vont faire en sorte que ça va moins être une corvée puis que ça va devenir quelque chose d'un peu plus plaisant.
Oui, une petite musique, un petit podcast, puis ça devient comme une petite activité aussi de coupure, de fin de journée. Puis je te rejoins, moi je suis vendue à la cuisine, comme je le disais, là, je suis vraiment une passionnée de ça. Donc de prendre le temps aussi, de, tu sais, il y a une reconnexion au sens qui se fait. Donc je trouve en effet que c'est super, super important en fait de se le faire de temps en temps, c'est ça, en fonction de son agenda, bien évidemment, ne pas se mettre de pression, c'est un bon point. Je voudrais bifurquer complètement vers notre rapport à l'alimentation, puis à tout ce qui est comparaison corporelle vis-à-vis des fameux réseaux sociaux, notamment tout ce qui est défi de jeunes, de perte de poids, les beach body, tu sais, qui vont pas tarder à arriver sur nos plateformes pour qu'on ait ce fameux corps de rêve pour l'été. Tout ce qui est régime miracle aussi, tout ça. Est-ce que c'est une vraie Est-ce que c'est une problématique croissante aujourd'hui vis-à-vis des adultes, des jeunes adultes, mais aussi des ados, ce rapport qu'on a en fait au poids vis-à-vis des réseaux sociaux?
Oui, définitivement, c'en est désolant à quel point la prévalence aux troubles alimentaires, elle est en augmentation. Puis, tu sais, on parle de troubles alimentaires avec les critères diagnostiques, mais il y a aussi tout l'aspect culpabilité puis relation troublée avec la nourriture que sans nécessairement avoir un diagnostic franc. De plus en plus de gens qui se sentent coupables de ne pas manger à la perfection, entre guillemets, puisque la perfection n'existe pas. Mais oui, on a tellement accès rapidement à des gens qui partagent des what I eat in a day, puis c'est souvent les gens qui vont faire ça, ils ont un certain format corporel, puis là, ben, on se dit, ah, ben, si je mange la même chose, je devrais avoir le même résultat, alors que notre image corporelle, notre corps, la composition de notre corps, elle ne dépend pas de what I eat in a day, elle dépend de multiples facteurs, incluant, oui, notre alimentation, notre activité physique, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces facteurs-là, ça va être génétique, ça va être l'âge, le sexe, mon environnement. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments sur lesquels on n'a pas de contrôle. Puis, quand on regarde les réseaux sociaux, ben, on ne voit qu'une partie de la réalité, puis on a l'impression que c'est facile et accessible, mais que nous, ça doit être de notre faute si on n'est pas capable d'atteindre ça, parce que, tu sais, j'en vois plein sur les réseaux sociaux des gens qui s'entraînent, puis qui mangent bien, puis qui ont le fameux six-pack, les abdos bien découpés, là, excusez-moi, mon accent anglophone qui est encore à travailler un petit peu. Mais oui, malheureusement, les réseaux sociaux, ça a cet effet-là de beaucoup nous faire miroiter des standards de beauté qui sont irréalistes et qui nous portent à croire qu'ils le sont parce que ben c'est omniprésent, c'est beaucoup ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis les algorithmes sont bons pour nous montrer des choses qui nous intéressent parce que on aspire à cet idéal-là, avec des guillemets bien évidemment, mais malheureusement ça contribue à l'insatisfaction corporelle de la population. Puis c'est beaucoup plus omniprésent, l'insatisfaction corporelle, que ce qu'on pourrait penser. Là, il y a l'organisme Équilibre qui a fait un sondage l'été dernier, donc ben pas 2023 mais 2022, donc il y a un an et demi, qui a fait un sondage et qui démontrait que, là, je me rappelle plus des chiffres exacts, si c'est 42, je crois que si je me souviens bien, c'était 42% des gens qui se sentaient coupables de ne pas faire plus d'activité physique et 62, quelque chose comme ça. J'ai pas les chiffres exacts, peut-être qu'on pourra le mettre dans la description de l'épisode pour ne pas que je me fasse lancer des roches à mal citer des chiffres, mais c'était autour de 60% de gens qui se sentaient coupables de ne pas manger mieux. Donc, c'est en moyenne, c'est près d'une personne sur deux qui se sentait coupable de ne pas manger mieux et ou de ne pas bouger davantage. Donc, si la culpabilité fonctionnait pour faire changer les habitudes de vie, ben on serait une personne sur deux au Québec qui atteindrait les recommandations, et je peux te confirmer que ce n'est pas le cas.
Ouais, c'est vraiment très élevé. 60%, c'est vraiment très élevé. Mais c'est certain que je trouve que je ne savais même pas qu'il y avait des publications, comme tu le mentionnais, qui disaient qu'est-ce que je mange dans une journée. C'est aussi devenu, je trouve, trop de contenu. C'est-à-dire qu'il y a du contenu qui est pertinent, puis il y a du contenu qui est un petit peu moins pertinent. Mais même ce contenu qui peut apparaître comme quelque chose de pas véritablement pertinent peut avoir tellement un effet boomerang en fait sur la santé mentale des personnes. C'est fou en effet. Puis je vais faire une petite parenthèse, anecdote personnelle. J'ai travaillé en Californie pendant un an, puis j'entraînais des chevaux là-bas. Une partie de mon travail était d'entraîner des chevaux. Puis c'est sûr que mon alimentation était complètement différente parce que je passais ma journée à cheval, donc à faire du sport. C'était le jour et la nuit par rapport à qu'est-ce que je mange aujourd'hui. Donc je faisais le rapport avec qu'est-ce que tu disais de cette comparaison facile qu'on va avoir sur les plateformes comme les réseaux sociaux, et on se compare à quelqu'un, on n'a aucune idée de quelle est la réalité de cette personne, quelle est sa santé, quelle est tu sais, à quoi ça ressemble son agenda dans une journée, la météo aussi. Tu sais, quand tu es dans un pays comme la Californie où il fait 25 degrés constamment, tu manges pas pareil que quand tu es au Québec et qu'il fait moins 20 l'hiver. Donc,
C'est vrai.
il y a tellement, c'est ça, de réflexion en fait à avoir. Puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut comme retrouver dans toutes les habitudes en fait de vie. Tu sais, moi je le vois aussi par rapport aux écrans. Chaque personne va avoir un profil différent en fonction de sa réalité personnelle. Donc t'as pas de recette miracle. Et en fait c'est pareil avec l'alimentation de ce que je comprends. Puis c'est vrai que quand ben, tu portes un petit peu réflexion à ça, c'est tout à fait logique en fait. Tout à fait logique. Je pense aussi à tout ce qui est femme enceinte, tu sais, les régimes drastiques de après, avant l'accouchement, qu'est-ce qu'on doit manger ou pas. Il y a vraiment une grosse pression en effet qui est mise en place sur ces plateformes. Puis je parle femme, mais c'est pareil certainement aussi avec les hommes. Donc oui, faut se protéger, faut se protéger de ça. Moi, je dis toujours de se rappeler que les réseaux sociaux, c'est un avatar virtuel, ça ne représente pas la réalité. Il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup de retouches aujourd'hui sur toutes ces plateformes. Donc, en effet, c'est important de se rappeler de ça. Il y a un
Oui,
autre aspect. Oui, pardon,
oh, excuse-moi.
vas-y.
J'allais ajouter aussi que, tu sais, des fois, quand on voit aussi les photos sur les réseaux sociaux, on voit des belles assiettes toutes bien construites, toutes colorées, toutes bien présentées. Puis des fois, on peut avoir l'impression que, ben justement, ah ben moi, quand je cuisine, ça pas l'air de ça, tu sais, fait que c'est moins motivant de cuisiner parce que on veut reproduire la recette. Finalement, notre recette, elle a l'air de pas grand-chose comparé à la photo. Donc, même au-delà de parler de la comparaison de notre corps, même l'aspect cuisine, on peut se mettre une certaine pression puis être déçu de ce qu'on cuisine parce qu'on s'attend à ce que ça ressemble à ce qu'on peut voir. Mais faut savoir qu'il y a de la retouche et il y a aussi de la triche, là, dans les photos culinaires. Donc, faut pas se mettre de pression. L'important, c'est que oui, ce soit quand même appétissant d'un point de vue visuel. On veut pas que ça nous répulse quand on cuisine de la nourriture, mais il faut quand même savoir que c'est normal que ça soit pas aussi beau que sur les réseaux sociaux. L'important, c'est dans l'ensemble de nos sens, que ce soit bon, que ça sente bon et que ce soit quand même attrayant d'un point de vue visuel, mais sans se mettre de pression que ça soit parfait. Puis l'autre chose aussi que je voulais ajouter par rapport à l'effet, disons, des réseaux sociaux sur la relation qu'on entretient avec la nourriture, mais aussi nos habitudes alimentaires, c'est que si je me connecte très, très, très souvent à mes réseaux sociaux, puis que je suis des gens qui présentent ce qu'ils mangent habituellement, ben ça se peut que je sois influencée par ce que eux mangent, puis que je me compare dans ce que moi je mange, puis que là je me dise, ah ben peut-être que je mange trop, peut-être que je devrais faire attention, je devrais peut-être mettre plus de X, Y, Z aliments dans mon plat parce que ben telle personne que j'admire, que soit c'est quelqu'un qui est un sportif de haut niveau que j'aimerais atteindre son niveau ou juste physiquement c'est quelqu'un que j'admire donc j'aimerais lui ressembler, ben ça peut faire en sorte quand que je me mets à avoir ces réflexions-là que je me déconnecte finalement de mes signaux corporels, que ce soit plus difficile de me reconnecter à mes signaux de faim et de rassasiement parce que je suis plus dans ma tête et moins dans mon corps. Donc, il y a ce risque-là également qu'il faut considérer.
J'avais pas pensé à cet angle-là, tu vois. Je trouve ça intéressant, par contre, l'histoire des photos parfaites de cuisine. Parce que ça, je me rappelle avoir eu une conversation lors d'une formation d'une maman, en fait, qui me disait culpabiliser parce qu'elle n'arrivait pas, en fait, à faire des aussi beaux plats pour ses enfants, tu sais, des l'œuf en forme de soleil, tu sais, la carotte qui ressemble à je sais pas quoi. Puis elle disait qu'elle avait, ça, elle avait comme une culpabilité de ne pas arriver à faire des plats aussi jolis pour ses enfants. Puis je me disais, waouh, jusqu'où ça va aujourd'hui, cette comparaison. Et faut s'inspirer, c'est bien, mais quand ça part avec ce genre de pression, on va dire, sinon ça doit sonner des petites alarmes dans votre tête parce qu'en effet, le plus important, c'est que ce soit appétissant pour, tu sais, quand, la dégustation.
Exactement, oui, c'est fou à quel point on est dans la performance, la comparaison dans beaucoup plus de sphères de la vie qu'on le pense, puis on le fait un petit peu comme sur le pilote automatique, on s'en rend même pas compte qu'on se met cette pression-là, mais des fois de prendre un pas de recul puis se demander est-ce que ça me sert cette pression-là, parce que elle est mince la ligne entre ça m'inspire puis j'aime ça versus ça me met de la pression puis je me sens coupable ou je me sens mal si je n'arrive pas à ce standard-là. Donc, déjà de prendre un pas de recul puis d'observer, tu sais, ce qui se passe, est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me nuit pour par la suite décider est-ce que, ben, je continue de passer autant de temps sur les réseaux sociaux ou est-ce que, ben, peut-être que des bonnes vieilles recettes dans un livre, oui, les photos vont être jolies, mais au moins, j'aurais pas l'impression que la personne, elle a fait ça sur son coin de table parce qu'elle l'a publié en story puis que ça avait l'air d'avoir été fait rapidement. Tu sais, dans un livre, on dirait qu'on le réalise plus que c'est un photoshoot, alors que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que la personne, elle a fait son œuf en forme de cœur avec sa toast parfaite à l'avocat, parfaitement mûr, chose qu'on sait que c'est impossible d'avoir toujours des avocats parfaitement mûrs. S'il y a bien un aliment qui est bon une demi-journée, c'est bien l'avocat. Donc, ouais, je pense que de se déconnecter un petit peu des réseaux sociaux, des fois, ça peut nous aider autant pour notre image corporelle que pour différents facteurs en lien avec nos habitudes de vie, de se mettre moins de pression. Parce que des fois, quand on n'atteint pas justement ces standards-là, on se dit, ah ben tant pis. T'sais, il y a beaucoup de gens, de ce que je vois, qui sont dans le tout ou rien. Donc, tant qu'à ne pas être capable de faire aussi bien qu'eux, ben, t'sais, je vais moins me forcer puis je vais laisser ça un peu de côté, alors que on gagnerait à juste essayer de cuisiner un peu plus et à bouger un petit peu plus pour prendre soin de soi avec une intention qui est bienveillante. C'est beaucoup l'intention qui va faire la différence sur comment que ça va me servir ou me nuire finalement.
Oui, puis j'aime que tu ajoutes manger et bouger, parce que c'est un enjeu aujourd'hui de notre société aussi. Hein. On passe plus de 42% de notre temps éveillé derrière des écrans, donc dans des activités qui sont souvent sédentaires. Puis je me dis, on pourrait terminer là-dessus avec tout ce qui est rapport au poids et à notre façon de consommer des écrans. Tout ce qui est, on va dire, consommation des écrans pendant qu'on mange, que tout ce qui est sédentarité aussi vis-à-vis de nos habitudes numériques. Qu'est-ce que tu observes, toi, de ton côté, vis-à-vis de ça, en fait, de nos habitudes autour des écrans quand on mange?
Oui, ben en fait, quand on mange, ce qui arrive, c'est qu'il faut pas diaboliser le fait de manger devant un écran. Ça nous arrive tous une fois de temps en temps de manger du popcorn devant un film, puis c'est correct. Et on va le dire, c'est pas la fin du monde. Mais là où ça peut devenir problématique, c'est si je mange constamment devant un écran. T'sais, si mon heure de dîner, je la passe en répondant à des courriels en même temps que je vais manger, que le soir, je mange devant la télévision, puis le matin, ben je mange en regardant mon cellulaire pour voir rapidement si j'ai des courriels qui sont urgents à répondre. C'est quand que ça prend beaucoup de place que là, on a tendance à se déconnecter de nos signaux parce que, tu sais, veux pas l'écran. On a sûrement parlé sur d'autres épisodes de balado, on va pas s'éterniser là-dessus, mais tu sais, l'écran, ça nous déconnecte de nos signaux corporels. C'est un stimulant, donc notre cerveau, il est très stimulé par cette fameuse lumière bleue-là, et il est moins dans la perception des signaux de faim et de rassasiement. Puis au-delà de la faim et du rassasiement, tu sais, de sentir qu'on a atteint nos besoins nutritionnels, il y a aussi l'aspect sensoriel. Si je mange sur le pilote automatique, je ne prends pas le temps de réaliser que la texture, les saveurs, tout ça, que c'est agréable, que c'est bon. Puis la nourriture, ça a aussi ce rôle-là à jouer, le rôle de nous apaiser, de nous faire du bien, de nous rendre heureux. Donc, si je suis tout le temps sur le pilote automatique, que je ne permets pas aux aliments d'être satisfaisants, ben je ne vais pas répondre à ce type de faim-là, qui est une faim peut-être un peu plus sensorielle. Puis c'est là, des fois, que je vais avoir tendance à manger un peu plus parce que j'ai fini mon assiette et je m'en suis même pas rendu compte. Donc là, je vais avoir envie d'aller grignoter un petit quelque chose de salé ou un petit quelque chose de sucré pour venir compléter. Donc, ça peut nous amener à consommer au-delà de notre faim, puis ça va être moins satisfaisant. Donc, il y a une certaine déconnexion de nos signaux, puis tu sais, ça permet pas à l'alimentation de remplir son rôle, finalement, le fait d'être beaucoup connecté à nos écrans. Faut juste garder en tête que c'est correct, que ça arrive quand même de temps en temps, parce que, tu sais, il y a un aspect ludique, là. Je vous dirais que si vous allez au cinéma puis que vous mangez votre popcorn avant ou après le film, ça se peut que ça soit pas la même expérience. Donc, c'est sûr qu'il y a des contextes où c'est applicable, là, de manger avec un écran. Faut juste trouver cet équilibre-là, finalement.
Je pense que c'est une merveilleuse façon de terminer l'épisode. C'est un petit défi qu'on vous lance avec cette dernière réflexion donc sur les écrans quand on mange. Merci mille fois Karine d'être venue donc sur le podcast de Vivala. C'était vraiment très enrichissant. Merci beaucoup pour ton temps. Je vais laisser toutes les informations pour que les personnes qui nous écoutent puissent te joindre en fait si jamais ils ont des questions ou s'ils ont besoin d'accompagnement. Puis je te dis à très bientôt.
À très bientôt, Laurie. Merci encore pour l'invitation.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet qu'on a traité aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées dans la description. Vous pouvez venir partager vos impressions. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires à propos de ce podcast. Partagez à votre entourage parce que ça nous aide à diffuser nos réflexions sur cet enjeu sociétal qu'est l'hyperconnectivité, la déconnexion, bref, la gestion du numérique en général. Moi, je vous dis vive à la offline. À la semaine prochaine.